Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, en République démocratique du Congo, la santé ne doit plus être un privilège, mais plutôt un droit. La déclaration du ministre de la Santé qui explique ainsi l'application de la maternité gratuite. Samuel Roger Kamba s'est ainsi exprimé hier lundi au cours d'une conférence de presse conjointement animée avec le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement. La CENI appelée à signer un pacte d'engagement proposé par les réseaux Pona Congo pour amorcer la paix des braves entre parties prenantes. Dans son mémorandum remis hier lundi au bureau de la centrale électorale, ce réseau citoyen tire la sonnette d'alarme sur la prolifération actuelle dans l'opinion des discours de haine, des menaces et autres manipulations politiques. L'invité de ce journal est le psychologue de la MONUSCO et chef de bureau du conseil du personnel basé à Goma, au Nord Kivu. Hilaire Tchaha parle des facteurs de risque et les moyens de prévention à l'occasion de la célébration ce mardi 10 octobre de la Journée mondiale de la santé mentale. Mesdames, Messieurs, bonjour. En République démocratique du Congo, la santé ne doit plus être un privilège, mais plutôt un droit. La déclaration est du ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, qui ajoute que chaque Congolais doit accéder aux soins de santé de qualité sans se ruiner. Ce qui explique, selon lui, l'application de la maternité gratuite. Le ministre de la Santé s'est ainsi exprimé hier lundi à Kinshasa au cours d'une conférence de presse conjointement animée avec le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Samuel Roger Kamba a profité de cette occasion pour expliquer la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, voulue par le président Félix Tshisekedi. On l'écoute.
En gros, c'est trois choses. Premièrement, qu'on accède aux soins de santé de qualité, c'est-à-dire les soins sont disponibles, sont accessibles, sont de qualité. La deuxième chose, ces soins couvrent tout le monde. C'est de là que vient le mot universel. Et la troisième chose, il ne faut pas que parce qu'il y a les soins, je me ruine, je m'appauvris en y accédant. Alors pourquoi on a fait le choix de la couverture santé universelle ? La santé doit être un droit pour tout le monde. Alors si un droit dépend des moyens financiers dont on dispose, alors ce n'est plus un droit, c'est un privilège. Mais ce que le chef de l'État veut, c'est que la santé ne soit plus un privilège, ça doit être un droit. C'est-à-dire que je sois pauvre, que je sois riche, que j'habite en ville, que j'habite dans un milieu rural, la santé doit être un droit. La RDC a une espérance de vie inférieure à la moyenne des pays africains. Donc quand un Congolais naît, au départ, on sait qu'il vivra moins longtemps que les autres Africains. Mais maintenant, quand on regarde pourquoi est-ce qu'en RDC, les gens meurent comme ça très tôt, une catégorie meurt particulièrement tôt, ce sont les nouveau-nés et les mamans qui accouchent. Sur 100 000 mamans qui accouchent, 480 décèdent. Et pour les nouveau-nés, tous les 35 nouveau-nés qui arrivent, il y en a un qui décède.
S'agissant de la maternité gratuite, qu'est-ce qui est réellement pris en charge par le gouvernement lorsqu'une femme congolaise accouche? Suivez les explications du ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba.
Le président de la République a décidé que la maman et le bébé doivent être subventionnés. Maintenant, qu'est-ce qui est pris en charge? Eh bien, c'est très simple. À partir du moment où la maman tombe enceinte, jusqu'à ce qu'elle va accoucher, tout ce qui peut arriver comme problème de santé, c'est pris en charge. J'insiste là-dessus pour qu'on ne vous dise pas une maman, non, payer seulement la césarienne, non, c'est zéro. Non, payer seulement la transfusion, non, c'est zéro. Payer seulement les transports parce que comme on doit vous amener là-bas pour vous opérer, il faut l'ambulance, non, c'est zéro. La maman est considérée comme une indigente dans le sens où on demande qu'elle ne paye rien. Donc tout ce qui peut arriver comme problème de santé, à partir du moment où on est enceinte, prenons qu'une maman qui est enceinte, on découvre qu'elle a une malaria. Bien, la malaria, elle est prise en charge. Tiens, on découvre qu'elle a une hypertension de grossesse. L'hypertension est prise en charge. Tiens, on découvre qu'elle risque d'accoucher prématurément. Eh bien, l'accouchement prématuré est pris en charge. Le bébé né de petit poids, bien, il est pris en charge. Je répète encore, du moment où elle tombe enceinte jusqu'à ce que le bébé a un mois, c'est ça la gratuité.
Ce dossier est signé Paul Matendo. Au Nord Kivu, pendant ce temps, le centre hospitalier neuropsychiatrique de Goma, communément appelé santé mentale, prend en charge les personnes souffrant du stress post-traumatique. Géré par la congrégation des frères de la charité de l'église catholique, ce centre d'une capacité de 80 lits reçoit les patients de toutes les provinces, de toute la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema, de l'Ituri et même des pays voisins. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée ce 10 octobre, Rosalie Zawadi a visité ce centre hospitalier et nous le présente dans ce reportage.
Avec sa grande équipe constituée de médecins neuropsychiatres, généralistes, des psychologues, des infirmiers techniques en santé mentale, des agents sociaux à côté de son administration, les centres hospitaliers neuropsychiatriques de Goma accompagnent la population qui passe par des moments difficiles de la vie. Anissé Mourouani est son administrateur gestionnaire.
Pour ce moment, avec la situation que nous traversons à Provence, le patient que nous sommes en train de recevoir, il y a plus de cas avec troubles liés au stress post-traumatique, avec la situation de guerre et le déplacement et la vie précaire. Il y a beaucoup de cas aussi d'épilepsie. Mais les cas les plus reçus en hospitalisation, et c'est surtout la jeunesse, ce sont des cas d'alcoolisme et troubles liés à la prise de substances psychoactives.
Interné depuis un mois dans ce centre neuropsychiatrique de Goma, cet homme explique la raison pour laquelle il se retrouve ici.
Moi, si je suis là, c'est par rapport au fait d'alcool, le fait de penser beaucoup aux problèmes psychosociaux. Nous prenons d'alcool, de la déception d'une femme, la déception des boulots. Avec ce qu'on a trouvé ici comme remède, nous allons abandonner à prendre l'alcool.
Cependant, la précarité de la population fait que de nombreuses familles n'arrivent pas à payer les factures des soins, indiquent les responsables de ces centres. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Processus électoral en cours en RDC. Le réseau Pona Congo tire la sonnette d'alarme sur la prolifération actuelle dans l'opinion des discours de haine, de menaces et autres manipulations politiques. C'est l'essentiel du mémorandum de ces réseaux citoyens remis hier lundi au bureau de la CENI à Kinshasa. Pour Divine Nouele, membre du réseau citoyen Pona Congo, cette démarche vise à attirer l'attention de la commission électorale et des parties prenantes pour prévenir et éviter cette attitude des politiques qui, selon ces réseaux, fait le lit à une violence électorale. Divine Nouele est au micro.
Le processus électoral débutant depuis bientôt un an arrive à sa phase cruciale. Les différentes recommandations adressées à la CENI sont restées à ce jour mortes, faisant ainsi courir à la RDC un véritable risque d'implosion avec en prime des affrontements interethniques. L'étape de la campagne étant une période d'exaltation, des passions, tirer la sonnette d'alarme devient un impératif pour tous ceux qui aiment véritablement le Congo. Tous les yeux sont tournés vers la CENI pour qu'elle prévienne cette violence, qu'elle apaise les passions et qu'elle garantisse à l'ensemble de parties prenantes un processus électoral crédible dans tous ses aspects. Par conséquent, le réseau Pona Congo recommande à la CENI la signature d'un pacte d'engagement comme preuve de sa bonne foi à dissiper les aspects litigieux lui attribués par l'opposition et plusieurs organisations de la société civile et à honorer le prescrit légal ci-après. Je cite, le respect de la date du 20 décembre comme jour des élections, la publication de résultats traduisant la vraie volonté populaire.
Et pour le réseau, Pona Congo n'est pas signé ce pacte d'engagement par la CENI pour amorcer la paix des braves entre parties prenantes, questionnerait sur le véritable agenda des animateurs de la centrale électorale et par conséquent a rejeté les résultats issus de ces élections. Autre chose à présent, au Nord Kivu, au moins 20 civils ont été tués et 30 autres blessés depuis la recrudescence de la violence armée le 1er octobre dernier dans les territoires de Masisi et de Rutshuru. C'est ce que rapporte Ocha, qui cite les sources humanitaires locales. Le point dans ce reportage de Gabriel Ouamenya, rendu par Grâce Amzati Massanzi.
Ocha renseigne que plus de 80 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans ces zones. Ces déplacés ont cherché refuge dans divers endroits, notamment Mweso, Nyanzale, Kichanga, Kalenga, Pinga, Kahira, Ngingo et d'autres localités du territoire de Masisi. L'accès dans ces zones affectées reste gravement restreint pour les humanitaires en raison de l'intensification des combats, indique la coordination humanitaire. Elle parle du report des interventions humanitaires prévues hier lundi, notamment la fourniture des nourritures et articles ménagers à 15 000 personnes dans la localité de Mokoto. Par ailleurs, le trafic routier reste suspendu depuis plus d'une semaine sur les axes Kichanga-Mweso et Kichanga-Goma, déplore Ocha.
Et puis, depuis le début de l'année, 9 personnes en moyenne ont été tuées par jour en RDC par les membres des groupes armés. L'alerte est de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, qui s'est ainsi adressée au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'était hier lundi, lors de son intervention au dialogue interactif renforcé sur la situation des droits de l'homme en RDC. D'après la chef de la MONUSCO, la situation des droits de l'homme reste affectée par la violence armée dans les provinces de l'Ituri, du Maïndombe, Kwilu, Kwango, Congo central, Kinshasa, Nord Kivu et Sud Kivu, et par l'augmentation graduelle des tensions politiques, alors que le pays se prépare pour les élections en décembre 2023. D'autres détails avec vous, Kelly Nkouté.
Tout en condamnant l'escalade des violences entre les groupes armés alliés du gouvernement et le M23 dans le Massissi depuis 10 jours et qui a causé plus de 84 000 déplacés internes, Bintou Keïta plaide pour la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda. Selon la chef de la MONUSCO, c'est la seule issue possible pour aboutir à la cessation des hostilités et à garantir la stabilité à long terme. Elle ajoute que la mission onusienne soutient ce processus politique ainsi que la mise en œuvre des opérations militaires conjointes avec les forces armées nationales pour aboutir au désarmement définitif des groupes armés nationaux et étrangers. Bintou Keïta appelle le M23 à démanteler son administration parallèle et à revenir sur les positions sur terrain telles que reprises dans la feuille de route de Luanda. Selon elle, leur présence et activisme aggravent la situation humanitaire et des droits de l'homme. Pour la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, les besoins humanitaires demeurent énormes face à la réduction de l'espace humanitaire. Elle appelle les autorités à prendre des mesures pour garantir l'accès continu aux espaces humanitaires. La chef de la MONUSCO salue par ailleurs les progrès accomplis dans les domaines de la réforme de la justice, de la lutte et de la prévention des violences sexuelles et de la justice transitionnelle.
52 acquittements et 63 condamnations au total, dont 8 à la peine de mort parmi elles celle d'Ephrem Bissimwa. C'est le jugement qui a été rendu hier lundi en fin d'après-midi par le tribunal militaire garnison de Goma au Nord Kivu. Parmi les condamnés, les acquittés dans cette houleuse affaire, il y a des femmes. Tous étaient jusque-là poursuivis pour infraction de participation à un mouvement insurrectionnel, meurtre et tentative de meurtre. Le point dans ce reportage de Gabriel Ouaménia rendu par Noéla Luzitukabambi.
Il est 15h à la prison de Goma, où une foule nombreuse composée d'adeptes de la secte Foi naturelle judaïque messianique vers les nations, ainsi que d'acteurs des mouvements citoyens, attendent depuis les premières heures de la matinée le sort des leurs. Le président du tribunal militaire de Goma a prononcé la sentence de mort contre 8 prévenus, dont l'accusé principal, Ephrem Bissimwa, responsable de la secte La Foi naturelle judaïque messianique vers les nations. D'autres accusés dans ces événements du 30 août dernier qui ont coûté la vie à 55 personnes ont écopé des peines allant de 20 à 10 ans de servitude pénale principale, parmi eux 8 femmes. Notons que 52 prévenus ont échappé aux griffes de la justice. Le tribunal militaire les a acquittés et les a renvoyés de toute poursuite judiciaire. Tout en calmant ses adeptes condamnés, Ephrem Bissimwa, souriant et entouré de ses avocats, a interjeté appel.
La situation des déplacés de Kwamout vivant dans la ville de Kikwit en province d'Ikwilu est de plus en plus préoccupante. Les rapports du service urbain des affaires sociales indiquent que 30 décès ont été enregistrés parmi eux à la suite de la précarité de leurs conditions de vie. Plusieurs mois se sont écoulés depuis leur arrivée, mais aucune assistance n'a été apportée à leur faveur. Les familles d'accueil qui avaient accepté de loger ces personnes vulnérables se disent dépassées par la charge qui leur incombe et ne peuvent plus continuer à les garder. Du coup, certaines de ces familles d'accueil se sont permis de renvoyer ces déplacés en les remettant à la disposition du service urbain des affaires sociales des Kikwit. Selon Judith Mbila, secrétaire technique du service, cette situation nécessite une intervention gouvernementale et humanitaire urgente pour sauver la vie de ces déplacés de Kwamout. Elle a été jointe par Irène Boma.
La situation est devenue encore pire, c'est une situation très difficile. Ils vivent mal, même dans des familles d'accueil où ils sont. Les familles d'accueil viennent de déclarer, en tout cas, ça ne va pas avec eux. La condition de manger, scolarité et puis de dormir aussi, ils sont mal à l'aise. À Kikwit, maintenant, nous avons 620 déplacés. Il y a 30 morts. Et la façon où ils dorment par les pavements, il y a des fois par terre, ils ne mangent pas bien. Alors, vous voyez, les pareils cas, ça provoque des maladies. Et puis, ils sont mal soignés aussi par rapport à la santé. Les familles d'accueil commencent à les chasser, c'est parce qu'ils sont impatients. Nous les avons, les affaires sociales les a données pour quelques temps pour dire que dès qu'on sera réhabilité, on peut les retirer. Alors les familles d'accueil sont impatientes, ils viennent maintenant déclarer aux affaires sociales de récupérer ces affaires. Vraiment, nous demandons au gouvernement, il faut que ces assistants existent aussi par rapport aux déplacés de Kwamutu. Puisque jusque-là, nous ne voyons pas encore assistance chez eux. Ils sont toujours à des vacations. On risque même de perdre même les enfants ou l'opération qu'on va les enfants là. Nous demandons au gouvernement d'assister comme il faut.
Actualité internationale.
Élection au Libéria. Près de 2,4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mardi 10 octobre 2023. Il s'agit d'élections générales, sénatoriales, législatives et présidentielles. À ce titre, le président sortant Georges Weah brigue un second mandat, mais le contexte ne lui semble pas favorable. Niger, hier lundi soir, un communiqué attribué aux autorités de transition élu à la télévision publique a annoncé que les opérations pour le départ du premier convoi de troupes françaises débuteront ce mardi 10 octobre. Et cela sous escorte des forces de défense et de sécurité nigériennes. Pour l'instant, l'armée française n'a pas réagi à cette annonce.
L'invité
de ce journal est le psychologue de la MONUSCO et chef de bureau au conseil du personnel basé à Goma, au Nord Kivu. Hilaire Tchaha parle des facteurs de risque et des moyens de prévention des maladies mentales à l'occasion de la célébration ce mardi 10 octobre de la Journée mondiale de la santé mentale. Hilaire Tchaha s'entretient avec Sifa Maguru.
Monsieur Hilaire Tchaha, bonjour.
Bonjour Sifa.
Vous êtes le chef de bureau du conseil du personnel de la MONUSCO. Le monde entier célèbre la journée de la santé mentale. Dites-nous d'abord, c'est quoi la santé mentale?
La santé mentale, on fait généralement référence à l'état de bien-être émotionnel, psychologique et social d'une personne. Elle est importante pour le fonctionnement quotidien, les relations interpersonnelles et la capacité de faire face aux défis de la vie.
La maladie, c'est quoi maintenant?
Je sais qu'il y a souvent des confusions entre santé mentale et maladie mentale.
Tout à fait.
La maladie mentale est une condition qui affecte la santé mentale d'une personne. Elle peut se manifester sous forme de troubles de l'humeur, de l'anxiété, de la psychose, de la dépression, de la schizophrénie et beaucoup d'autres implications encore. Il ne faut pas aussi oublier que la maladie mentale a aussi une connotation culturelle, dont les définitions peuvent varier d'une culture à l'autre. La perception aussi peut varier d'un contexte à l'autre.
Et quels sont les types de maladies mentales?
Donc les troubles de maladie mentale sont classifiés et la taxonomie va des troubles de l'humeur tels que la dépression, les troubles bipolaires, les troubles anxieux tels que les troubles d'anxiété généralisée, les troubles paniques, les troubles de personnalité.
Qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent ici chez nous?
On retrouve toutes les catégories. Mais je sais que votre question vient un peu épouser l'allure des commentaires ou bien de la mentalité ou de l'épistémie actuelle. Dans les sociétés africaines, nous avons ce qu'on appelle les transés, possessions, possessions, élections, qui font partie de notre culture.
Quelles sont les options de soutien?
Les options de soutien sont multiples. Il y a la psychothérapie de groupe. La psychothérapie de groupe permet aux clients, aux patients ou aux anciens patients de partager leur expérience de vie, l'expérience thérapeutique. Ça permet aux autres aussi d'être compliants tout au long du processus du traitement. Il y a aussi les médicaments que nous ne pouvons pas oublier. Les médicaments aujourd'hui jouent un rôle majeur, que ce soit dans la société traditionnelle ou dans la société moderne. Donc il y a toujours le traitement qui est appliqué à chaque cas spécifique. Nous avons les psychothérapies avec l'aide d'un professionnel de la santé mentale, comme les psychologues, les psychothérapeutes, ainsi de suite. Donc, il y a aussi l'option spirituelle qu'on ne peut pas oublier, parce que il faut percevoir la maladie mentale dans son aspect holistique, n'est-ce pas, qu'on peut retrouver auprès des religieux, qu'on peut retrouver auprès des imams, un peu partout. Parce que la maladie mentale aussi a une consonance spirituelle.
Quels sont les facteurs de risque pour développer une maladie mentale?
Les facteurs de risque pour développer une maladie mentale sont multiples. Nous avons les antécédents familiaux. Dans certaines familles, on voit qu'il y a toute une lignée de personnes qui font la maladie mentale. Et le diagnostic aussi dépend de ça. Dans le diagnostic, on cherche aussi à savoir s'il n'y a pas des antécédents familiaux. Il y a l'exposition au traumatisme et des événements stressants. Être exposé ne veut pas dire qu'on est victime de premier rang uniquement. On peut être témoin, on peut tout simplement entendre. Pourquoi j'insiste dessus? Il y a des intervenants de prise en charge après les catastrophes, par exemple, qui peuvent aussi être affectés. Ce sont les intervenants de première ligne. Il y a ceux qui sont seulement témoins d'un incident critique qui sont affectés. Il y a les membres de famille qui sont affectés. Donc, il y a une classification à 5 niveaux. Je le dis parce que aujourd'hui, avec les médias sociaux, on a l'habitude de distribuer des images traumatiques. C'est des gens qui sortaient d'un accident, c'est ceux qui ont été attaqués, ainsi de suite. C'est très déprimant et ça détériore la santé mentale du témoin que de celle de la personne qui a été victime de premier rang. Donc, quand nous partageons des informations, il faut faire très attention du contenu parce que le contenu peut être traumatogène. Il y a aussi la consommation des substances et de certains aliments. Il y a la consommation de la drogue, de l'alcool, ainsi de suite. Tout. Il y a l'isolement social et le manque de soutien émotionnel. Vous ne communiquez pas avec les autres. Ça vous expose aussi à développer certains troubles mentaux plus tard. On ne peut pas vivre dans notre société aujourd'hui sans stress.
Les traitements disponibles, ils sont là?
Oui, bien sûr. Dans les traitements disponibles, comme j'ai cité tantôt, nous avons la psychothérapie, nous avons les médicaments, nous avons l'accompagnement.
Merci beaucoup, monsieur.
Et c'était notre invité, le psychologue de la MONUSCO et chef de bureau au conseil du personnel basé à Goma, au Nord Kivu. Hilaire Tchaha s'entretenait avec Sifa Maguru. Fin de ce journal qui a été supervisé par Pelé Kipela Mondo sous la mise en onde de Jean-Claude Siala. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.